Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Sauty de Chalon.
Voyage au bord du golfe Persique pour cette émission éclairage entre Russie, Irak et Afghanistan, au cœur de cet immense pays. Cet immense pays qui aujourd'hui se trouve dans le collimateur des États-Unis, l'axe du mal en particulier, c'est l'Iran bien sûr. L'Iran et non la Perse. On va y revenir d'ailleurs avec Ushang Nahavandi. Bonjour.
Bonjour.
Oui, Iran et non Perse, peut-être un éclaircissement d'emblée ?
Oui, l'Iran c'est le nom traditionnel de ce pays qui s'appelle, et s'est toujours appelé Iran, depuis plus de 26 ou 27 siècles. En fait, il y a 3000 ans à peu près, les tribus indo-européennes, que l'on appelait naguère aryennes, ont émigré des steppes de l'Asie centrale, enfin quelque part à l'est, on ne sait pas exactement d'où ils sont venus. Et une partie d'entre ces gens se sont installés sur un plateau qui est le plateau iranien. Et à ce pays, ils ont donné leur nom, Iran, le pays des Aryens.
Donc c'est une désinence géographique au départ.
Géographique. Et les Cyrus, qui a réunifié les monarchies ou les royaumes qui se trouvaient sur ce plateau, s'est fait appeler empereur d'Iran, le Shahanshah d'Iran. Et depuis lors, toujours, les rois d'Iran se sont fait appeler les Shahs ou les Shahanshahs ou les empereurs d'Iran. Et dans nos poèmes patriotiques, y compris le fameux livre des rois qui a fixé la langue persane il y a 11 siècles, on parle de l'Iran, jamais de Perse.
Mais alors la Perse, ça vient d'où ?
La Perse a été une des provinces de l'Iran. Cyrus l'Achéménide était un Perse, de mère Mède et du père Perse. Et les Grecs ont appelé ces pays la Perse. Et ceci est resté jusqu'à 1930, je crois, dans le langage diplomatique officiel. C'était le roi de Perse, le Shah de Perse, l'armée persane, etc., etc. Et puis, sous Reza Shah, donc au début du XXe siècle, on a décidé, c'était une des manifestations de la politique nationaliste de cet homme, d'appeler officiellement à l'étranger ce pays par son vrai nom que les Iraniens avaient l'habitude d'utiliser.
Donc la Perse, c'était finalement un nom employé par des étrangers pour qualifier l'Iran.
Tout à fait. En gros, c'est ça.
Le drapeau iranien, un décryptage ?
Vert, blanc, rouge. Rouge, c'est la couleur de la force et de la guerre. Blanc, c'est la paix. Et le vert, c'est l'islam.
Au milieu ?
Le lion et le soleil qui remontent à la nuit des temps, qui a été officialisé sous les Safavides, donc au XVIe siècle, et puis qui a été l'emblème iranien jusqu'à la révolution islamique. La révolution islamique a aboli cet emblème, bien qu'il n'ait rien avec la dernière dynastie régnante, et l'a remplacé, allusion à l'ascendance de l'ayatollah Khomeini, par un dessin de Cachemire, donc le lion et le soleil, ont été remplacés par un dessin indien cachemiri.
Ce qui n'est pas sans signification.
Ce qui n'est pas sans signification.
Comment l'interprétez-vous ?
Le lion et le soleil, c'est le symbole du nationalisme iranien, si vous voulez. Tandis que ce dessin cachemiri, c'est un hommage, en fait, à l'ayatollah Khomeini.
Alors, Ushang Nahavandi, vous êtes correspondant de l'Institut, lauréat de l'Académie française, Grand Prix du rayonnement de la langue française en 1992, on peut le rappeler. Docteur honoris causa des universités d'Utah, George Washington, Ankara et Shiraz. Ancien recteur des universités de Shiraz, c'était entre 68 et 71, et de Téhéran de 71 à 77, avant d'en présider le conseil d'administration jusqu'en février 79, date évidemment clé de l'histoire iranienne.
Tout à fait.
Je précise que vous ne faites pas de politique, vous vivez à Bruxelles. Vous ne pouvez pas retourner en Iran aujourd'hui, à l'heure où l'on parle.
Bien sûr que non.
Non, toujours pas.
Toujours pas. J'y suis condamné à mort et je reste sur la liste des personnes qui sont pourchassées par le régime. Mais je n'ai jamais été inquiété depuis que je suis en exil.
Est-ce qu'intimement, vous vous dites « Ah, un jour, peut-être là, bientôt, je vais pouvoir y revenir ?»
Je devrais vous dire d'abord que je n'ai jamais quitté l'Iran. chaque instant de ma vie, je vis dans mon pays natal, dans mon pays d'origine, de cœur, de souvenir. Cela étant, évidemment, un de mes grands souhaits dans la vie, maintenant je suis à l'automne de ma vie, est de pouvoir rentrer un jour en Iran, ne fût-ce que pour revisiter ce pays et de voir la terre de mes ancêtres, de revoir la terre de mes ancêtres. Bien que je vive maintenant depuis une dizaine d'années en Belgique, je considère toujours la France comme mon second pays. Et si on était au XVIIIe siècle, comme Thomas Jefferson, je dirais que tout honnête homme a deux pays, le sien et la France.
Alors, vous publiez Le choc des ambitions aux éditions Aquilion. Est-ce qu'on peut déjà décrypter la couverture avec tous ces visages? Alors, bien sûr, c'est le chat. L'une des dernières photos du chat, tout en bas.
Tout à fait, lors de son exil au Mexique, photo prise par son beau-frère, c'est-à-dire le mari de sa sœur aînée. Décryptage. Cette couverture représente les grandes personnalités qui ont, à mon sens, marqué l'histoire de l'Iran depuis le début du 19e siècle.
Mossadegh, ici?
Il y a Mossadegh. Je voudrais remonter à la première photo à droite, en haut, c'est Nadir Shah, dont l'assassinat a marqué la fin des ambitions impériales de l'Iran, c'est-à-dire l'ambition expansionniste. Il a été le grand conquérant de l'Inde, rêve fabuleux que même Darius n'avait pas pu réaliser. L'Iran n'avait jamais pu étendre son influence au-delà de l'Indus, c'est-à-dire en gros au milieu du continent indien.
C'est lui qui a porté ce rêve expansionniste?
C'est le dernier grand conquérant iranien, et même certains l'ont appelé le dernier grand conquérant asiatique.
Et pourquoi ça s'est arrêté après?
Parce que l'Iran, comme d'autres pays asiatiques, se sont enlisés dans l'immobilisme. Et puis, beaucoup de pays, ce n'est pas le cas de l'Iran, ont été colonisés, comme l'Empire de l'Inde. Et malheureusement, l'Iran n'a pas pu s'adapter à la révolution industrielle et à la modernité qui est née, disons, après le siècle des Lumières.
Juste à côté,
c'est le prince Abbas Mirza. C'est le prince héritier du deuxième roi de la dynastie Qajar, qui malheureusement n'a pas pu accéder au trône. Et c'est lui qui a initié la première tentative de la modernisation de l'Iran. Il a envoyé des élèves à l'étranger pour apprendre les sciences modernes. Il a commencé une politique de traduction des livres de base en persan. Il a fondé, ou plutôt refondé, parce qu'il y en avait une avant, la première imprimerie de l'Iran. Il a modernisé l'armée, etc., etc. Malheureusement, il a été entraîné dans une guerre interminable, deux grandes guerres avec l'Empire des Tsars. Deux grandes guerres où l'Iran n'avait plus les moyens, quoique les vestiges d'une ambition impériale subsistaient, de faire face à une grande puissance comme la Russie d'alors et de toujours. L'homme qui a repris le relais, c'est le grand chancelier, comme on l'appelle, Amir Kabir, le troisième personnage de cette couverture, avec une grande barbe et un gros chapeau.
Une coiffe caractéristique. Hein. D'ailleurs, ces trois personnages ont une coiffe caractéristique, chacun.
Amir Kabir, qui était le fils du cuisinier d'un chancelier iranien. Et dans les familles aristocratiques, il y avait l'habitude d'adjoindre aux fils de famille qui avaient leur précepteur particulier, un ou deux enfants du peuple, en général les enfants de domesticité, pour suivre les mêmes études. Un peu aussi probablement comme souffre-douleur. Cela se faisait dans certaines familles. Quand le garçon de famille a commetté une faute, c'est l'autre qu'on punissait, probablement, je n'en sais rien. En tout cas, Amir Kabir a eu une formation classique extrêmement poussée. Il est entré au service de l'État et il a été envoyé en mission en Russie, dans l'Empire ottoman. Il a lu, il avait une vision tout à fait modernisatrice de l'Iran. Par suite des événements que je décris assez longuement dans le livre, vers 1844, il a accédé au pouvoir et pendant un peu moins de 4 ans, a été chancelier de Perse. Toutes les grandes réformes que les Iraniens envisageaient, dont les Iraniens rêvaient, ont été commencées par Amir Kabir. Réorganisation de l'armée.
On est à quelle époque, là?
Au milieu du 19e siècle, à la même époque où il y avait la révolution en France, la Seconde République et la Révolution. La révolution qui a mis fin à la monarchie orléaniste. Alors, donc, Amir Kabir a fondé la première université moderne iranienne, qui a été inaugurée 11 jours avant sa mort, son assassinat, où il n'était plus au pouvoir. Il a créé une armée moderne, il a épuré l'administration, il a réduit la liste civile, il a envoyé un certain nombre d'étudiants en Europe, et paradoxalement, surtout en Autriche, parce que c'était le pays qui était une grande puissance en Europe en ce moment-là, sans avoir la moindre visée sur l'Iran.
C'est une sorte de Napoléon ou pas? C'est excessif?
Non, pas une sorte de Napoléon, certainement pas, mais un grand réformateur. Un grand réformateur que les intrigues de l'Empire britannique, des Russes, moins que les Britanniques en l'occurrence, et de toute la cour qui s'était trouvée lésée par les réformes radicales et la brutalité de l'action d'Amir Kabir, ont conduit le Shah de l'époque, un jeune, d'abord à destituer, ensuite à faire assassiner. Enfin, tout cela est lu dans décrit dans mon livre.
Après, on a des images un peu plus récentes.
Des images un peu plus récentes parce que l'Iran a connu, malgré la révolution constitutionnelle de 1906, une très longue période de décadence. Au cours du demi-siècle qui a suivi l'assassinat d'Amir Kabir, l'Iran a perdu toutes ses possessions de l'Asie centrale, par le fameux traité de Paris que Napoléon III avait arbitré. L'Iran a perdu la moitié de Beloutchistan, qui est devenu Beloutchistan britannique actuellement, province pakistanaise. L'Iran a perdu l'archipel de Bahreïn, etc., etc. Et puis, la décadence était telle qu'en 1907, encore sur la médiation de Paris, mais c'était pour d'autres raisons, on craignait la Première Guerre mondiale, les Anglais et les Russes ont partagé l'Iran en zones d'influence et c'était, sauf erreur de ma part, par l'intervention, enfin la médiation de Delcassé. Et puis l'Iran est tombé vraiment dans un état de décadence indescriptible. Même on ne pouvait plus circuler dans la capitale. Les Russes ont fait un ultimatum, la Russie tsariste naturellement, on fait un ultimatum à l'Iran pour chasser une mission d'experts financiers que l'Iran avait engagé auprès des Américains pour réformer les finances publiques. Ils ont forcé le premier ministre d'Iran à venir s'excuser auprès de l'ambassadeur de la Russie pour avoir engagé des experts américains sans l'accord de gouvernement de Moscou.
Mais alors, ce qui signifie, Ouchangna avant dit, que déjà les liens, les relations avec l'Occident et les pressions que l'Occident exerçait sur cette région et l'Iran en particulier étaient déjà connues, étaient déjà fortes. La rencontre avec l'Occident n'a pas débuté plus tard.
La rencontre avec l'Occident a débuté en fait au XVIIe siècle. Mais ça, c'était à l'époque de Shah Abbas, où l'Iran était une superpuissance.
Voilà, mais la rencontre, je dirais, comparable à celle d'aujourd'hui, si tant est bien sûr
qu'on
puisse...
C'est le XIXe siècle, et ce sont les ingérences permanentes et humiliantes, je parle souvent...
De la Russie et
de la Russie et de la Grande-Bretagne, et la recherche permanente également de l'Iran de trouver de tierces puissances pour équilibrer cette influence. C'était d'abord sous Amir Kabir l'Autriche-Hongrie, enfin l'Autriche qui est devenue ensuite l'Autriche-Hongrie, et puis sous Napoléon III, quand la France a retrouvé une grande diplomatie, c'était une politique de rapprochement avec la France de Napoléon III.
Qui a porté ses fruits?
Qui a porté ses fruits, et à partir de cette époque, le français est devenu la langue officielle de la cour. Les cours de cette université fondée par Amir Kabir, très rapidement, ont été délivrés, souvent en français, pour tous les cours techniques, physique, médecine, etc. On a fait de plus en plus appel à des techniciens et conseillers français pour venir faire les modernisations qui étaient possibles. Et même l'intervention de la France en 1917 de Delcassé pour régler les différends entre l'Empire britannique et l'Empire des Tsars pour faire face à l'Allemagne de Guillaume, est passé pratiquement inaperçu. On n'en attribue pas la responsabilité à Paris, mais aux Britanniques et aux Russes. Et puis pendant toute la période de Reza Shah, c'est-à-dire à partir de 1921, la France a été la première puissance que les Iraniens ont essayé d'associer à leur destin. Tous les étudiants qui ont été envoyés de la part des Iraniens à l'étranger étaient envoyés en France. Le français était la deuxième langue obligatoire dans les écoles iraniennes. L'armée iranienne a été modernisée avec l'aide des officiers français. L'Académie militaire de Téhéran a été fondée sur le modèle de Saint-Cyr, etc., etc.
Mais alors, cette galerie de tableaux que nous explorons pour l'instant, on est à peu près en 1906, on avait arrêté notre propos à cet endroit-là. Oui. À l'état de déliquescence, vous dites, de la société iranienne, que va-t-il se passer? Est-ce que ces visages vont compter, là, juste après?
Oui, alors, il y a ensuite l'image de Reza Khan, ou Reza Shah. Les Anglais ont imposé à l'Iran, en 1919, un traité de quasi-protectorat. Pas de protectorat, mais un traité assez semblable à celui qui régissait les relations de la Grande-Bretagne avec l'Égypte avant 1936 et même après 1936, jusqu'à l'époque du coup d'État de Naguib et de Nasser. Il y a eu un soulèvement national contre ce traité qui n'a jamais été ratifié. Et les Anglais ont favorisé en ce moment-là le projet d'un coup d'État en Iran pour créer un État fort face à la poussée bolchevique qui devenait dangereuse pour toute la sécurité de la région que les Anglais dominaient totalement.
L'Iran devient très intéressante sur le plan stratégique, là.
L'Iran devient très intéressant sur le plan stratégique et puis il y avait le pétrole. Il y avait le pétrole à partir de la guerre, de la Première Guerre mondiale. Churchill avait nationalisé en quelque sorte, fait racheter par l'État britannique la compagnie qui exploitait le pétrole du sud de l'Iran, et le pétrole devenait de plus en plus la principale énergie qui faisait marcher le monde, si on peut dire. Il y avait en Iran, disons, une force armée, c'était une division dite cosaque, pas une division de cosaque, mais on appelait cette division la division cosaque, qui avait été créée par les Russes, et dont la plupart des officiers étaient partis après la révolution rejoindre l'armée blanche. De cette division cosaque, 2500 hommes, quelques pièces d'artillerie, et le chef de cette division, le commandant de cette division, était un certain général de brigade, Reza Khan, Reza Khan, futur empereur, très nationaliste, très susceptible, insupportable avec les étrangers, très aimé mais craint de ses officiers et de ses hommes. Alors, après avoir organisé ce coup d'État, l'ambassade britannique est allée prendre langue avec les chefs de cette division. Enfin, toutes les péripéties sont décrites dans ce livre. Et Reza Khan est venu prendre Téhéran, qui ne se défendait même pas. Le lendemain matin, il a fait placarder sur les murs de la capitale cette proclamation qui est historique. J'ordonne, moi, Reza, j'ordonne. En fait, il disait, le peuple doit travailler et obéir. Point à la ligne. Et il s'est donné le titre de généralissime des forces armées de Sa Majesté le Roi, ce qu'il n'avait pas. Et quand le chef de ce coup d'État a été chargé par le roi, dont le palais était encerclé par les forces de Reza Shah, de futur Reza Shah, il ne l'a même pas pris comme ministre dans son gouvernement. Mais en fait, il est devenu à partir de ce moment, non seulement l'homme fort de l'Iran, mais aussi l'homme de plus en plus populaire de l'Iran.
On est en quelle année là?
On est en 1921. Et mars 1921, et puis 5 ans plus tard, il était le roi de Perse de l'Iran, encore le roi de Perse, le Shah de Perse. Et alors, c'est la photo qui se trouve au milieu. Et cette photo, ce n'est pas une photo, c'est la reproduction d'un tableau dont l'original se trouve encore chez Monsieur Palbod, le beau-frère du chat, de dernier chat, donc le gendre de l'ancien, qui habite actuellement aux États-Unis d'Amérique.
Ushang Nahavandi, on marque juste une pause, on vous retrouve juste après.
Thank you.
Éclairage avec Ouchang Nahavandi, ancien ministre du Shah, sur le choc des ambitions, publié aux éditions Aquilion, qui retrace l'histoire de l'Iran contemporain aussi, hein, puisque vous avez vécu de près les événements dramatiques de la révolution islamique. Vous vivez en exil à Bruxelles depuis plusieurs années. Et vous revenez sur cette histoire iranienne, sur laquelle on a beaucoup d'idées préconçues. En tout cas, l'image, on le sait, de l'Iran est forgée également par des médias et par des médias qui insistent sur le côté noir islamiste de ce pays. On voit avec vous que les choses sont beaucoup plus subtiles, évidemment, que l'histoire renvoie à une amitié avec la France. Et on retrace un peu cette galerie de tableaux qui est sur la couverture de votre ouvrage, donc « Le choc des ambitions ». Là, on est en 1921, donc, hein, c'est là qu'on reprend notre fil.
1921-1941, c'est le règne, d'abord comme homme fort, premier ministre, et puis Shah, de Reza. Reza qui s'est donné le nom de Pahlavi au moment où les Iraniens, par une législation, ont été amenés à choisir un nom patronymique, c'est-à-dire l'état civil a été instauré en Iran.
Et d'où le tient-il ce nom ?
Pahlavi, c'est la langue que les Iraniens parlaient avant l'invasion arabe. Donc c'est un symbole de retour aux sources, si vous voulez. Et la grande époque, pendant 20 ans, c'est l'époque des réformes. Des grandes réformes, tout ce que l'Iran moderne possède, tout ce que l'Iran possède même actuellement, remonte à cette époque de Reza Shah. Le chemin de fer, l'industrialisation, l'urbanisation, les écoles, le service sanitaire, le développement de la culture. Il voulait tout pour l'Iran et il en a beaucoup fait dans un système politique autoritaire, on ne pouvait pas faire autrement, et il y a eu l'erreur, si on peut dire, de son attitude, l'erreur, on ne peut pas dire, on le dit a posteriori, de son attitude avec l'Allemagne et l'Italie. D'après les documents qu'on possède, d'ailleurs certains sont cités dans ce livre, Reza avait une piètre idée de Mussolini. Mais il a souvent qualifié, même dans les documents diplomatiques, de fanfaron, enfin dans les documents internes. Malgré cela, il a confié la création de la marine iranienne, vieux rêve des Iraniens, qui a toujours été empêché d'être réalisé par la puissance britannique, à l'Italie. Une vingtaine de bâtiments de guerre construits en Italie, mussoliniennes, les officiers de la marine impériale formés en Italie. Et puis après 1933... l'Iran, toujours par la crainte envers les Russes et la haine envers les Britanniques, s'est rapproché de l'Allemagne. À la veille de la guerre, l'Allemagne était la puissance occidentale la plus implantée, ou surtout la mieux implantée en Iran, avec 5000 ressortissants allemands, ce qui était énorme pour l'époque. Les Allemands avaient joué...
En dépit du protectorat britannique.
Il n'y avait pas de protectorat britannique.
Mais on est en quelle période, là ?
On est en 1940.
D'accord.
Enfin, ouais. Disons, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, l'Iran n'a jamais été un protectorat britannique. Ouais.
C'est ce que vous aviez dénoncé avant. Enfin, l'histoire du dépeçage de l'Iran au début, c'était au début du siècle.
Oui, mais après, c'est fini, puisque la révolution russe a mis fin. Et c'est pour, justement, contenir la poussée russo-bolchevique que...
Donc, les liens de l'Iran et de l'Allemagne remontent à 1933, pas...
Les liens remontaient à bien plus loin, avec l'Empire prussien, etc. Mais enfin, disons les liens très étroits. La coopération industrielle, pas militaire. Industrielle, économique, même dans une large mesure scientifique, remonte donc aux 10 années qui précèdent, disons 30 à 40, en gros. Et puis, avec la Seconde Guerre mondiale, et surtout avec l'entrée en guerre de l'Union soviétique, l'Iran est redevenu l'espace stratégique qu'il a toujours été, c'est-à-dire la voie la plus facile pour faire acheminer des armes et munitions à l'Union soviétique en guerre contre la puissance nazie. Et peut-être là, Reza a commis une grave erreur. Il a fait proclamer la neutralité de l'Iran, il a mis un peu sous surveillance les activités allemandes et italiennes en Iran. Il a changé un gouvernement qui était connu comme pro-allemand, Matine Daftari, il a nommé un premier ministre réputé pro-anglais, sont les subtilités de la politique intérieure iranienne, mais il n'a pas mis fin aux activités allemandes en Iran, ce qui, évidemment, indisposait et les Russes et les Britanniques. Des ultimatums ont été adressés à Téhéran, Reza n'en a pas tenu compte, a toujours insisté sur la neutralité de l'Iran. Sincèrement, il voulait faire respecter cette neutralité. Et il présumait peut-être de la force de son armée, qui était une armée surtout destinée à la sécurité intérieure et qui n'a pas pu résister devant l'invasion de l'Iran août 1941 par les forces alliées qui étaient nettement supérieures. L'Iran a tenu 3 jours, a demandé l'armistice. Et en ce moment-là, autre photo qui se trouve sur cette couverture, on a fait appel, Reza a fait appel, dans des péripéties extrêmement tragiques, à un vieux philosophe qui avait été son premier ministre, Forouri, des années auparavant, qui était un peu en disgrâce, et c'est un personnage fabuleux dont j'ai longuement parlé dans ce livre. Forouri était un philosophe, il était un écrivain de tout premier ordre, il est le traducteur de Montaigne en persan, le traducteur de Descartes, discours de la méthode sur la manière de bien conduire la raison, comme vous dites. Et sincèrement, quand on lit ce texte persan et on le met devant le texte français, beaucoup de gens
trouvent qu'il est mieux écrit en persan.
Non, c'est pas mieux écrit, mais on se demande lequel est original, l'original, et lequel est la traduction, tellement c'est bien fait. Et en tout cas, il est l'auteur d'une histoire de la philosophie occidentale qui fait encore autorité aujourd'hui. Il est éditeur de plusieurs grands hommes de lettres du passé. Il était diplomate, il avait été ministre, il avait été premier ministre auparavant, et il a même été pendant 2 ans président de l'Assemblée générale de la Société des Nations comme ministre iranien des Affaires étrangères. Alors Forouri, malgré son impopularité du moment, parce qu'il voulait s'entendre avec les Anglais et les Russes, a pu sauver l'Iran, a fait entrer l'Iran dans le camp allié, c'était un grand pari, en 1941. Les Allemands étaient à quelques encablures de l'Iran, de la frontière iranienne, a pu sauver la monarchie, péripétie extrêmement curieuse je décris, a même forcé le jeune Mohammad Reza Pahlavi à rester, parce qu'il voulait s'en aller avec son père en tout cas.
Tout aurait pu s'arrêter à ce moment-là.
Tout aurait pu s'arrêter en ce moment-là, puisque les ambassadeurs britanniques et russes sont venus, les documents sont maintenant publics, lui proposer de proclamer la République et d'en devenir le président. Il a refusé. D'abord, il avait 75 ans, il était malade. Puis, il a dit, pour l'Iran, la monarchie, c'est une garantie de stabilité que la République n'est pas. Ce qui était probablement vrai en ce moment-là. Et, en tout état de cause, il a sauvé la monarchie, il a sauvé l'Iran. Et il est mort quelques mois après, parce qu'il était... Quand déjà, il a accédé au pouvoir, il était âgé. Nous arrivons ensuite à l'occupation, la crise d'Azerbaïdjan, la cession organisée par les soviétiques des provinces d'Azerbaïdjan et une partie de Kurdistan. Alors on voit surgir un autre, quelqu'un qui était connu à l'intérieur, un autre grand homme politique, c'est Gavam Saltaneh, comme on le prononce en français. Gavam Saltaneh, un vieux routier de la politique iranienne, comme l'a écrit André Fontaine et bien d'autres historiens de l'époque, c'est le seul homme qui a réussi à vaincre Staline, à duper Staline, ce qui n'était pas facile pour l'époque.
De quelle manière ?
Il est allé à Moscou, il a fait entrer les communistes dans son gouvernement, il a ensuite réussi à les chasser de gouvernement, il a promis aux Russes de leur accorder l'exploitation du pétrole, disons une influence économique sur le nord de l'Iran. Il a charmé et fait accepter par Staline le rôle qu'il pouvait jouer. Staline, évidemment, et les Russes croyaient qu'ils pourraient s'en servir et s'en débarrasser par après, comme ils ont fait avec Édouard Benesch et avec bien d'autres. Mais lui était d'une autre trempe. En tout cas, il a réussi à éliminer l'influence soviétique de l'Iran, à sauver l'Azerbaïdjan et à duper, vaincre, disons, Staline. Et à ce titre, il est entré dans l'histoire de l'Iran comme celui qui a redonné à l'Iran une place dans le concert des nations après la guerre. Il y a ensuite l'épisode de la nationalisation du pétrole et Mossadegh. Mossadegh qui restera pour les Iraniens un héros national absolu, un mythe qui perdurera. Il est devenu même un des grands noms du tiers-monde, celui qui a réussi à chasser les Britanniques de l'Iran, à nettoyer, l'influence britannique de l'Iran.
Un Nasser avant l'heure.
Un Nasser avant l'heure, mais un Nasser, un aristocrate, petit-fils du roi par sa mère, gendre du roi par sa femme, lié à toute la dynastie Qadjar, par 1000 liens.
À ce moment-là, l'Iran aurait peut-être pu prendre la tête du tiers-monde pour être un peu rapide.
Oui, mais Mossadegh était très centré sur son pays, et il n'avait pas, disons, de vision internationale. Il eût été l'homme le mieux à même de résoudre le problème pétrolier, la crise du pétrole, mais il était trop attaché à son personnage négatif, si on peut dire, celui qui est contre les Anglais. Parce qu'il faut se mettre dans la peau des Iraniens de l'époque. Et il a réussi la première phase, l'évincement des Britanniques de l'Iran, comme une législation l'appelle, n'a pas réussi à remettre l'économie iranienne sur les rails, n'a pas réussi à résoudre le problème du pétrole, et l'Iran s'est enfoncé de plus en plus dans un chaos politique et la montée en puissance de l'influence soviétique. Le parti communiste, tous les réseaux communistes, et on a su par la suite que l'armée iranienne avait été totalement infiltrée par les soviétiques.
Et là, on est en pleine guerre froide.
On est en pleine guerre froide, l'arrivée au pouvoir du général Eisenhower, le retour au pouvoir de Winston Churchill après le cabinet travailliste de Dattley, et les Américains et les Anglais ont décidé, en fait, ou bien de régler définitivement le problème du pétrole et de l'influence soviétique avec Mossadegh, qui était anticommuniste, mais tout de même voulait se servir du parti Today pour faire peur aux Américains, mais pour quel objectif, on ne sait pas exactement. Et c'est le projet de renversement de Mossadegh qui a été, disons, mis sur pied. Et dans ce projet de renversement de Mossadegh, toutes les tentatives qui ont été faites, un vrai ou un faux, on ne sait pas exactement, un vrai faux coup d'État qui est tourné complètement en comédie burlesque, envoyé quelques détachements de l'armée devant la maison du Premier ministre, la résidence du Premier ministre, pour le destituer et l'arrêter. Et puis le colonel qui était chargé, il sera le chef très malheureux de la SAVAK par la suite, qui entre dans la maison de Mossadegh, on lui demande de rendre ses armes, son revolver, il rend même son revolver, et ensuite il entre chez Mossadegh pour lui dire que vous êtes armé et vous êtes destitué, je viens vous arrêter. Évidemment, Mossadegh le fait arrêter par sa garde et fait désarmer quelques camions de soldats qui ne savaient pas pourquoi ils étaient là. Enfin, c'est vraiment rocambolesque toute cette histoire.
Mais ça s'est passé comme ça.
Ça s'est passé comme ça, les documents sont officiels. Et puis les jours qui ont suivi ont vu surgir d'autres forces, le clergé, et tout un tas de réseaux anticommunistes, pro-royalistes, proches de l'armée, etc., qui ont renversé Mossadegh en 3 jours. Et de cet événement a surgi un homme, officier en retraite, le général Zahedi, qui avait passé des années dans les prisons anglaises, qui avait cette réputation très solide d'être anti-britannique. Encore une photo de ce qui est la reproduction d'un tableau sur la couverture du livre. Oui. Et le début de ce qu'on appellera par la suite la monarchie autoritaire. Le retour du roi en Iran, puisque le roi, après ce coup d'État rocambolesque, s'était enfui, oui, employons le mot, n'ayons pas peur des mots, enfui à Rome, et le retour du roi. Encore une fois, on assiste à la même scène, c'est-à-dire les Anglo-Américains, les Américains cette fois-ci beaucoup plus, les Anglais commençaient à être très méfiants à l'égard de Zahedi. Les Américains ont proposé à Zahedi de devenir le patron, le vrai patron. Et encore lui, il a dit, d'abord, il était malade, et encore, vrai sentiment monarchiste et patriotique, il a dit non, la monarchie pour l'Iran est préférable. Il pensait qu'il pourrait gouverner et laisser le chat régner.
On marque une pause au Changna Avandi.
Tout ce qui touche la Grèce touche Jacqueline de Romilly. Écoutez-la parler des arbres, commenter Sophocle et l'olivier, Platon et le platane, raconter la mythologie du laurier. Jacqueline de Romilly, un arbre pour la Grèce, dans l'émission Focus sur Canal Académie.
Iran, le choc des ambitions, aux éditions Aquilion avec Ushangna Avandi, notre invité pour parler justement de ce pays que l'on connaît mal et qui aujourd'hui se trouve sous les feux de l'actualité, sous l'angle plus particulièrement historique, mieux comprendre l'Iran à la fois sur le plan de l'histoire contemporaine, puis aussi de l'histoire lointaine. Et on voit que l'ingérence occidentale a joué énormément dans ce pays, continue à jouer, somme toute. Hein. Elle pèse sur l'histoire des consciences, sur aussi la stratégie que doit mener l'Iran. Alors là, on est avant que le Shah prenne le pouvoir.
Le Shah était souverain régnant. Mais entre 1941 et 1954, en gros, il régnait et il ne gouvernait pas. Et Zahedi a été le dernier premier ministre qui a voulu gouverner mais il avait beaucoup plus d'atouts en main que les précédents, et laissait le Shah régner. Donc, très rapidement, un conflit est né entre les deux hommes. Et le Shah a, très gentiment, mais tout de même, mis Zahedi sur la route d'un exil doré, si vous voulez. Et donc, commence, à partir de 1954-55, jusqu'à la Révolution, l'ère de la monarchie technocratique et autoritaire. Le Shah devait sa couronne à des sentiments royalistes d'une grande partie des Iraniens, certes, à l'influence occidentale qui a joué en sa faveur, à l'armée, mais surtout, là, c'est un point que j'ai essayé d'éclaircir dans ce livre, au clergé. Et le 19 août de l'année où le coup d'État avait échoué, ce sont les bazaris de Téhéran qui téléphonent. Les manifestations contre Mossadegh et pour le Shah, plutôt pour le général Zahedi et le Shah, avaient déjà commencé à Téhéran. Elles étaient d'une grande ampleur, mais elles étaient encore contrôlables. Les chefs de bazar de Téhéran ont téléphoné au chef suprême du chiisme. Désormais, les documents existent, je les cite. Au chef suprême du chiite, qui était un certain grand ayatollah Borujerdi, de demander ce qu'il devait faire. Il a dit « Vous fermez les boutiques et vous descendez dans la rue ». C'est à 10h du matin, ce 19 août, que les choses ont complètement basculé. À partir du moment où les chefs du bazar ont reçu l'ordre de ce grand ayatollah, un homme remarquable d'ailleurs, soit dit en passant, de descendre dans la rue. Les manifestations de rue, importantes mais tout de même limitées, se sont transformées vraiment en mouvement populaire.
Pourquoi le clergé a-t-il fait ce choix ?
Par peur du communisme. Par peur du communisme, parce que le clergé avait peur de la mainmise des communistes. Et pendant les jours qui ont suivi l'échec du coup d'État rocambolesque, il faut bien dire, et là, vous lirez dans ce livre tous les souvenirs évidemment posthumes écrits 25 ans après des chefs communistes, le Parti communiste iranien a commis une série d'erreurs, enfin d'erreurs extraordinairement, qui ont nui à ses desseins. Ce qui a conduit d'ailleurs à une tentative de suicide de l'ambassadeur de l'Union soviétique à Téhéran, que je cite dans le livre. Ils ont proclamé des soviets dans certaines municipalités, ils ont fait hisser le drapeau rouge sur la mairie de Téhéran, enfin, tout ce qu'il ne fallait pas faire pour faire basculer une grande partie de la population.
C'était peut-être même manipulé d'ailleurs, non ?
Était-ce manipulé ? Nous n'avons pas de... Enfin, le fait est que...
Ils se sont discrédités en tout cas.
Ils ne sont pas discrédités, ils croyaient sur le point de pouvoir prendre le pouvoir. Oui. Et en ce moment-là, la population, le clergé, le grand ayatollah, ont basculé du côté de Zahedi. Et Zahedi a pu, disons, organiser ce mouvement et reprendre les choses en main. C'est l'épisode de l'arrestation très tragique, très théâtrale de Mossadegh, parce qu'une fois qu'il s'est réfugié chez des amis, le premier ministre, son remplaçant, le général Zahedi, a fait un communiqué officiel lu et relu à la radio. Je prie son excellence, le docteur Mossadegh, de bien vouloir se présenter à mes bureaux. Je lui garantis la sécurité et le respect qui lui sont dus, etc., etc. Mossadegh qui arrive, on le fait accueillir devant le club des officiers par le chef de l'état-major et toute une myriade d'officiers supérieurs qui lui présentent le respect militaire. On l'aide à monter et puis il entre dans le bureau de Zahedi qui le reçoit avec beaucoup de respect. Il dit « Vous êtes maître de la situation, je ne suis que votre prisonnier ». Il dit « Excellence, vous êtes mon hôte le plus respectable et le plus respecté possible. Enfin, »
Donc échange d'amabilité.
Échange d'amabilité, on prend le thé ensemble, on installe Mossadegh dans l'appartement, la suite royale du club des officiers, etc. etc. Puis le régime a commis en ce moment-là la grave erreur de traduire Mossadegh devant un tribunal militaire qu'il a réussi à transformer en un théâtre international, si on peut dire, et tout le reste. Le Shah a essayé de gouverner et de régner. C'est l'ère des premiers ministres technocrates, des gouvernements technocrates. Il a essayé de juguler le clergé parce qu'il savait qu'il leur devait son pouvoir, de contrôler l'armée, d'avoir une armée qui ne soit fidèle qu'à lui et qui ne dépende que de lui, et d'éviter les grands hommes d'État qui pouvaient lui porter l'ombre. Cela a fonctionné pendant un quart de siècle. Et à la fin, en 1977-78, début 79, lorsque les choses se sont détraquées, l'armée qui est restée fidèle au roi jusqu'à la dernière minute n'avait pas de chef, puisque l'organisation a été faite de telle sorte qu'elle n'obéisse qu'à lui seul. Le clergé l'avait abandonné et il n'a pas pu négocier avec une partie du clergé qui lui restait encore favorable. Et il n'y avait pas d'homme capable, comme Fourouri, comme Ravamb, comme Mossader, comme Zahedi,
de prendre la suite, enfin de l'assister.
De redresser la situation, ça a été la fin.
Mais alors, là vous parlez de l'effondrement interne, mais l'Iran a connu pendant cette période une phase de décollage économique, de modernisation.
Remarquable.
Et une volonté d'indépendance. Parce que les mots qu'il faudrait retenir de votre analyse, il y a modernisation, ambition aussi.
Ambition surtout.
Ambition surtout. Et ces ambitions, elles ont été délibérément par la volonté des États-Unis de promouvoir l'islamisme pour contrer le communisme, elles ont été délibérément enterrées, sapées.
On peut le dire.
Donc l'effondrement interne n'explique pas évidemment les seuls déboires du chat.
Les erreurs internes, le chat de plus en plus détaché de l'intendance, c'est l'affaire du gouvernement, disait-il, détaché de l'intendance, tenu dans une certaine ignorance de ce qui se passait à l'intérieur du pays, mais c'est une tragédie, ça je le décris, des preuves irréfutables à l'appui pendant des pages et des pages dans mon livre.
Donc il y a un isolement,
qui
se crée autour
bien
de lui.
Bien que, il était là, il était partout. Et puis une volonté de puissance qui a commencé à inquiéter beaucoup de gens dans le monde. La création d'une marine très puissante et d'une armée puissante, qui a tout de même inquiété pas mal de pays de la région. La politique pétrolière qui a gêné et indisposé les grands intérêts pétroliers, les propositions permanentes de l'Iran pour que le Moyen-Orient se dénucléarise, ce qui visait évidemment Israël, c'était la seule puissance nucléaire de la région, la proposition iranienne sur laquelle le Shah insistait souvent d'assurer la sécurité du Golfe Persique et de l'océan Indien par ses riverains, ce qui évidemment en faisait éliminer les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne. Évidemment, le rôle joué par l'Iran pendant la guerre de Kippour, c'est un épisode qui est assez peu ou mal connu. L'Iran, il est sûr maintenant, d'après les documents dont on dispose, que le Shah savait l'intention du président Sadat d'attaquer par surprise l'État hébreu, qui était également ami, allié de l'Iran. Ça, on le sait. Il n'en a pas averti ni les États-Unis ni Israël.
On lui a tenu rigueur de ça.
Tenu, je crois, c'est une explication. Depuis quelque temps, on entendait souvent Mohammad Reza Pahlavi dire « Il faudrait que les pays arabes et Israël fassent la paix. Et cela ne sera possible que si les pays arabes retrouvent l'honneur et la dignité. Au moins l'Égypte, disait. Il a aidé un tout petit peu les Égyptiens. Il a laissé les avions russes traverser l'espace aérien de l'Iran pour acheminer de l'aide pour l'Égypte. Il a fait accorder une aide d'urgence $1 milliard à l'Égypte, ce qui a permis au président Sadat de connaître un demi-succès ou ne pas connaître un échec complet. Ce qui fait que les Arabes considèrent cette opération comme une victoire qui n'en a pas été. Mais enfin, qui n'est pas tout de même, ils ont réussi à traverser le canal de Suez. Ça. Donc, les conditions d'une négociation de paix entre l'Égypte et Israël ont été mises en place et la diplomatie iranienne a joué un rôle important dans les préliminaires.
Tout cela mis bout à bout explique la situation qui va conduire à la destitution du Shah. On vous retrouve dans un instant au Changna Avandi. Éclairage avec le choc des ambitions aux éditions Aquilion, où Shangna Avandi, ancien ministre du Shah, qui pour nous retrace l'histoire contemporaine de l'Iran. Et nous sommes dans cette période fatidique de 1978-79. Quel personnage était le Shah en privé, vous qui l'avez connu ?
Je l'ai connu dans une certaine mesure. Je n'étais pas de ses familiers ni de ses intimes.
On dit qu'il était autoritaire.
Il était autoritaire, il était très cultivé, il était timide, il était distant. En privé, il m'est arrivé plusieurs fois à faire partie de la toute petite suite impériale, comme on disait, dans certains déplacements à l'étranger et à l'intérieur du pays. Quand il était en tout petit comité, il était charmant, il pouvait être charmant, très gentil. Bon, il adorait étaler parfois ses connaissances, comme on dit pour épater les bourgeois, parler de la littérature, corriger les gens quand ils commettaient une erreur de telle ou telle chose. Une fois, j'ai cité un vers français que je croyais être d'Aragon. Je lui ai dit, comme Aragon a dit, j'ai cité...
Vous avez repris ?
C'est pas Aragon, c'est Éloire. Bon, je dis, d'accord, excusez-moi. Une fois, j'ai fait une citation comme ça, en disant, j'ai cité une phrase qui était de Machiavel. Ça, cette fois-ci, je le savais. Il s'est cru obligé de dire, c'est de Machiavel. Oui, d'accord. Enfin, tous ceux qui le fréquentaient avaient l'habitude de ce genre de remarques pour qu'ils disent qu'ils connaissent Aragon, Éloire, Machiavel, ce qui était tout de même assez normal. Il possédait le français aussi bien que le persan, ou presque. Et il possédait l'anglais. Très très bien. Il lisait la presse internationale. C'était un travailleur infatigable. Il travaillait 12-13 heures par jour.
Un souverain moderne quand même.
Un souverain moderne. C'était un homme, mais c'est l'autre côté intime, qui aimait la femme et les femmes. Il a eu un grand mariage d'amour avec Soraya, qui s'est rompu tragiquement. Le premier mariage de raison et d'état avec la princesse d'Égypte, Fawziyeh. Et le troisième mariage de nécessité avec l'impératrice Farah, la Shahbanu Farah, de qui il a eu 4 enfants, dont le prince héritier Reza. Il était toujours extrêmement prévenant avec son épouse, quoique le bruit courait à Téhéran, tout se savait de certaines infidélités. Et puis, c'était un père attentif autant que le temps lui permettait. Ceux qui sont très occupés, qui travaillent 6 jours sur 7, 12-13 heures par jour, n'ont pas le temps de donner le biberon à leurs enfants, ce qui est bien connu. Et le prince Reza, dans son livre, il lui reproche ce genre de petites choses. Mais moi qui n'étais rien, sauf un recteur d'université, je n'ai jamais donné le biberon à mes enfants, quoique j'étais pas le roi. Enfin bon, c'est un père qui s'occupait tout de même quand il avait le temps de ses enfants, qui était très attentif. Qui jouait avec eux, qui faisait des sports avec eux, mais qui ne s'est pas beaucoup occupé de leur éducation politique, enfin de l'éducation politique, surtout du prince héritier.
Ce qu'on a du mal à comprendre quand même, Shangna Avandi, c'est que l'Iran est tout d'un coup basculé dans l'obscurantisme avec un islamiste comme l'ayatollah Khomeini, mis en selle par les États-Unis,
oui.
Comme ça.
Écoutez,
on a joué le destin d'un peuple et d'un pays.
On a joué le destin
sur la roulette comme ça de la stratégie.
Je ne suis pas sûr que ça soit sur la roulette de stratégie. On croyait, mais lisez la littérature de l'époque. On croyait qu'avec Khomeini, on aura un islamisme modéré, que Khomeini ira s'installer à Qom, puisqu'il devait beaucoup de choses à l'Occident. Il serait raisonnable. Ça n'a pas été le cas. Ils sont trompés dans leur analyse, dans leur disons, perception de l'islamisme. La France s'est beaucoup trompée dans...
Vous lui en voulez, à l'époque ?
On lui en voulait à l'époque, on lui en veut, enfin, disons, surtout au président de l'époque, oui. On lui en veut, beaucoup d'Iraniens en veulent à M. Giscard d'Estaing, surtout pour les explications contradictoires qu'il a données par la suite. Tout le monde est gêné de cet épisode de Neuf-le-Château, les Américains aussi...
Et qui manipulaient tout à Neuf-le-Château. On sait que c'était eux qui répondaient même aux interviews.
Tout le monde était là. La maison attenante, mitoyenne à la maison de Khomeini, avait été louée déjà par la CIA. C'est le comte de Marange qui le dit dans ses mémoires. D'autres maisons de la localité avaient été louées par les services français, les services soviétiques, etc. etc. Et l'équipe qui gérait tout de même la vie de Khomeini était notamment dirigée par un irano-américain, genre Ahmad Chalabi d'Irak, tristement célèbre, qui est Ibrahim Yazdi. Ce n'est pas un secret puisqu'il le revendique.
Les Américains voient qu'ils ont fait une erreur aujourd'hui ?
D'ailleurs, beaucoup d'Américains le disaient dès cette époque. Lisez les discours de Reagan pendant sa campagne électorale. Lisez le livre de Jane Kirkpatrick, qui a été ensuite ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies. La démission du général Haig pour protester contre la mission. Ça, c'est un épisode qui est très peu connu. Lorsque les Américains, après la conférence de Guadeloupe, ont envoyé le général Heuser en Iran pour organiser le départ du Shah et l'arrivée de l'ayatollah Khomeini, le général Haig a démissionné de son poste du commandant en chef des forces de l'OTAN pour protester en disant « Vous êtes en train de commettre une erreur ». Et ce ne sont que les gens les plus connus. Donc, toute une partie de l'opinion américaine a été opposée à cette opération. Mais enfin, l'administration Carter, les intérêts pétroliers, peut-être une certaine entente Est-Ouest en la matière, ont fait que cela s'est produit. Mais il y avait les causes internes qu'il ne faut pas non plus oublier.
Aujourd'hui, 3 millions d'Iraniens vivent aux États-Unis, 700 000 à Los Angeles, je crois. C'est une diaspora très importante.
C'est une diaspora très importante et très influente.
Très influente, intégrée. Est-ce qu'elle espère reprendre la main sur son destin, sur le destin de ce pays ?
Disons que un changement, que ce soit sous forme d'une évolution ou un changement radical, en Iran, ne sera pas possible sans une certaine entente et sans une certaine, disons, harmonie entre les Iraniens de l'intérieur, qui sont tout de même plus de 60 millions maintenant, dont une majorité de jeunes qui n'ont jamais vu l'ancien régime. Et il ne faut jamais oublier ce détail. Qui sont parfois beaucoup plus nostalgiques de l'ancien régime que leurs aînés. Ne sont pas monarchistes. C'est une...
Pas de retour du prince Reza.
On ne sait pas. Personnellement, je ne le crois pas. Mais ce n'est pas un problème d'aujourd'hui ni de demain. Parce qu'il faudrait d'abord que le régime évolue ou change. Ensuite,
mais pas sous la force de l'action américaine.
Pas sous la force
de l'action. Ce serait une catastrophe, ça fédérerait tout le monde autour du régime actuel.
L'intervention, même armée, ciblée, des États-Unis ou des puissances occidentales en Iran pour détruire la capacité nucléaire de l'Iran et ses velléités de posséder l'arme nucléaire, des velléités qui sont réelles, c'est pour sanctuariser le régime. Une intervention chirurgicale, comme on dit, des frappes chirurgicales, conduira peut-être à détruire pour une décennie la capacité nucléaire de l'Iran, mais conduira à pérenniser le régime. Aucun Iranien digne de ce nom ne pourra approuver une intervention militaire contre l'Iran.
Donc c'est de l'intérieur qu'il faut faire éclore.
De l'intérieur et de l'extérieur, mais par les Iraniens. Ces projets, d'ailleurs, qu'on publie, de créer des bureaux de recrutement d'opposants à Paris, à Dubaï, à Istanbul ou ailleurs, de désigner 3 experts pour gérer l'opposition, etc., sont des projets vraiment qui font rire et qui décrédibilisent les vrais opposants. Et ce n'est pas comme ça que le régime évoluera, ce n'est pas comme ça que le régime changera. Et il faut bien dire que Ahmadinejad, actuel président de la République iranienne, a l'habileté de jouer sur la corde nationaliste des Iraniens, et ce qui est très habile de sa part.
Vous-même, vous avez quitté ce pays. J'aimerais que vous me racontiez rapidement dans quelles conditions terribles vous avez quitté votre pays.
Disons que j'ai échappé à la mort certaine dans la nuit de 11 à 12 février 1979. Grâce à un monsieur dont la sœur avait été étudiante à l'université de Téhéran, à qui j'avais rendu service puisqu'elle avait été contestataire et avait eu quelques ennuis, j'étais intervenu en sa faveur, dans des circonstances, disons, assez curieuses. Ce monsieur a pu me sauver dans cette nuit où j'allais être fusillé immédiatement ou dans quelques heures, plus comme beaucoup d'autres. Et il est devenu par la suite quelqu'un d'assez important dans le régime. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu maintenant. Je me suis caché pendant 6 mois, donc de 12 février très exactement jusqu'à 18 juin, c'est une date qui ne s'oublie pas, à Téhéran, mais pour d'autres raisons. Puis grâce à des amis kurdes que je connaissais bien depuis des années, j'ai pu quitter Téhéran et quitté l'Iran. Et je suis arrivé le 16 juillet 1979 à Paris, à l'aéroport d'Orly. Grâce à un ami à qui je dois rendre hommage, Michel Debray, ami de toujours. On était venu me chercher même au pied de l'avion qui m'amenait. Bon, puis j'ai vécu pendant des années en France où j'ai enseigné, j'ai travaillé, j'ai écrit. Et puis une fois l'âge de retraite venu, nous sommes allés avec mon épouse vivre en Belgique, puisque une partie de notre famille habite en Belgique.
Je vous remercie beaucoup d'être venu justement parler avec nous du choc des ambitions sur l'Iran, Ushank Nahavandi, aux éditions Aquilion. C'est à la fois une exploration dans l'histoire contemporaine lointaine de ce pays que nous aurions tort de méconnaître, en particulier au regard de l'actualité qui se déroule en ce moment sous nos yeux et qui, espérons-le, Ushank Nahavandi, n'aboutira pas sur une issue tragique, en tout cas celle à laquelle vous ne souscrivez pas, d'une intervention militaire, mais qui plutôt évoluera vers une sortie pacifique, une évolution pacifique de l'intérieur de ce pays. C'est ce que l'on peut souhaiter en tout cas.
Merci à vous de m'avoir reçu d'abord, c'est un privilège. Et ensuite, je voudrais vous dire, pour conclure, que à long terme, je suis optimiste parce que l'Iran, depuis 4000 ans qu'il existe, ou 3000 ans qu'il existe,
en a vu d'autres.
Tellement de hauts et de bas, il en connaîtra d'autres, et toujours les Iraniens comme Phoenix s'en sont sortis, l'Iran renaîtra, c'est l'histoire, c'est notre histoire.
Merci beaucoup, je rappelle bien sûr que vous êtes correspondant de l'Institut.